I am very happy. I am sure with my staff that good work for this season.
RMC Football Show.
We were 15 teams. Now we are 13. Alors my job is to ask FIFA to come back to 15. Was my English was good?
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot. Gilbert Brébois.
Bonsoir à tous, l'After est là jusqu'à minuit. Bien sûr, comme tous les soirs, nous sommes en direct sur RMC. Nous sommes en direct sur RMC Sport News. Dans l'After, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Jérôme Rotten, qui pense tout haut.
Mais oui.
Salut Jérôme.
Salut Gilbert, salut à tous.
Et Daniel Riolo, qui dit tout haut.
Ouais.
Depuis des années, ce que le monde du football pense jamais.
Bonsoir les amis.
Salut Daniel. Bon, je vous refais pas tout le résultat, mais je vous dis juste que Lyon, Bastia et Vitré sont les qualifiés du jour.
Jamais. Ça veut dire que tu dis des conneries
penser.
En fait.
N'ose pas penser.
Hey.
Parce que Daniel, il dit des trucs que les gens n'ont pas encore. Les gens n'ont pas encore.
Minimum
pensé.
Deux ans d'avance.
Ah ouais, tu.
Minimum.
Bon, en ce moment, un peu moins quand même. T'as régressé.
Un an et demi.
Mais bon.
Je vous rappelle juste le tirage des huitièmes parce que c'est ça qui intéresse les supporters de clubs encore qualifiés.
Le dire.
Non, c'était avant l'after.
Tu sais,
par exemple, là, actuellement, on est en direct 22h56, mais mets-toi dans la tête, par exemple, des gens qui t'écoutent en podcast demain matin à 8h30.
Ah, quand ils vont commencer le téléchargement, en fait, il n'y aura pas,
exactement. On doit penser à tout dans les constructions de nos émissions, ouais, Daniel.
C'est parfait.
Et puis surtout, il y a le petit jeu de l'after, tirage au sort, vous devez les qualifier.
Ouais. Bien sûr.
Vitré, la Duchère. National 2 contre National.
Vitré.
La Duchère.
Ah ouais.
Ouais.
Rennes-Lille.
Oh là là.
Ah, c'est le choc, ça.
Ouais.
Rennes-Lille.
Rennes.
Guingamp-Lyon.
Ah. Lyon.
Bastia-Caen, le Rotenico.
Bastia.
Non, Caen, on va aller se qualifier à Bastia.
Croix-Dijon.
Dijon.
Prolongation.
Metz-Orléans.
Metz.
Oh, Metz.
Villefranche-PSG.
Bah, écoute.
Paris, je pense, hein.
Et puis, entendre Sannois-Saint-Gratien ou Nantes contre Toulouse. Là, c'est un multi-choix, là.
Si c'est Nantes à domicile, ce sera Nantes. Et si c'est l'autre, ce sera Toulouse.
Alors, on va parler, bien sûr, de Coupe de France, mais aussi de Thierry Henry longuement tout à l'heure avec toutes les infos du jour en concernant Thierry Henry, qui n'est ce soir plus l'entraîneur de l'AS Monaco, vous le savez. Et on évoque l'éventualité d'un retour de Jardim. Toutes les infos à suivre tout à l'heure. Mais vous le savez, en Coupe de France, l'essentiel, c'est pas les 3 points. Et pourtant, dans l'after, il y a quand même les 3 points.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Évidemment, c'est les sujets de débat du soir. On parle pas que de Coupe de France dans les 3 points. Daniel.
On va quand même commencer par ça. Lyon, mention assez bien. Je dis assez bien parce que effectivement, comme disait Lionel dans l'émission précédente, globalement, ils n'ont pas été inquiétés, ils ont dominé la rencontre, mais ils ont quand même trouvé le moyen de se retrouver à 10 et de se rendre le match finalement pas terrible, quoi. Le deuxième point, la qualité de ces huitièmes de finale de Coupe de France, globalement, on s'est un peu fait chier, quoi, vraiment. Avec des équipes parfois bizarrement concernées comme Saint-Etienne hier, enfin ça joue vraiment petit trop, quoi. Et le troisième, c'est le pataquès à Monaco, parce que j'aime ce mot de pataquès, un peu désuet, tu vois.
Tu aurais pu dire rififi
non,
à Monaco.
J'aime bien aussi rififi, mais pataquès, ça me plaît.
Jérôme, tes 3 points.
Écoute, le premier, donc sur le match du soir, Lyon, très sérieux. Moi, j'ai bien aimé leur prestation, même s'ils tombent sur une équipe amiénoise qui est faible, bien concentré. Comme le PSG l'a été sur la première mi-temps hier, en faisant comprendre à l'adversaire qu'aujourd'hui, ils étaient venus, ils étaient sur le terrain pour se qualifier. Donc, j'ai bien aimé l'attitude. Mon deuxième point, bien sûr, sur Thierry Henry, parce que, mine de rien, c'est un énorme échec pour lui. Et pour l'AS Monaco. Et mon troisième point, un petit clin d'œil à mes amis corses, parce que revoir Bastia sur le devant de l'affiche comme ça en Coupe de France, personne s'y attendait. Et je suis bien content de revoir le stade Armand Cesari.
C'est entre deux expressions. Entre en haut de l'affiche et devant de la scène.
Ah oui.
Hein, et il a fait sur le devant de l'affiche. Non, sur le haut de l'affiche. Sur le.
Ah bon?
Non.
Alors que tu répètes sur le devant de la scène.
J'ai ripé.
T'as mélangé deux expressions.
Ah, désolé, alors, excusez-nous.
Ne t'inquiète pas, tu ne seras jamais autant que le Thénardier strasbourgeois qui a parlé de luxure hier.
Ah oui, luxure,
pour parler
oui.
De Paris.
Oui.
Je ne l'avais pas encore remis, celle-là.
Ah, la luxure.
Ah bah, la luxure, moi non plus, franchement.
Ah, la luxure, c'est bien. C'est rigolo.
Il joue au PSG, en plus, hein.
Ah oui, je m'en souviens. On peut pas dire qu'il ait beaucoup marqué non. Le club, mais la luxure, c'était drôle, l'utilisation de ce mot.
On pourrait revenir aussi d'ailleurs sur les suites de tout ça.
Gueule, hein. Paris, c'est les paillettes, la luxure.
Ouais, c'est vrai. Alors, si tu veux faire jingle, moi je veux le jingle, il va se faire soulever.
Tu peux ajouter, bien sûr.
Bon, on pourrait y revenir, hein, parce que ça a fait débat toute la journée, jusqu'au moment où on a appris que Thierry Henry se faisait virer. C'est comme en politique, le foot. C'est ce qu'on appelle les séquences. Donc, t'avais la séquence Neymar-Loret, et hop, t'as coup, t'as la séquence Henry. Donc,
voilà.
Que va-t-il se passer après?
Est-ce que t'aimes bien cette expression en politique qui est apparue il y a un an, deux ans, les séquences?
Je déteste ça.
Sur la séquence,
c'est insupportable.
C'est les tics de langage. Mais on a ça dans le foot aussi. Hein.
Bah là,
dans
mais
le
là,
foot, il y a plein d'expressions qui, à un moment, quand arrivent comme ça, des boules, par exemple, la projection vers l'avant. Il y a 10 ans, personne disait c'est un joueur qui se projette vers l'avant ou il est bon dans la projection vers l'avant. Mais là, maintenant, c'est devenu expression à la mode.
Il y a plein d'expressions.
Quand tu jouais, on disait projection vers l'avant.
Ouais.
Bon, Jérôme, c'est pas vrai.
Ah, mais je te jure
que c'est pas vrai.
Parce que tu nous écoutais pas.
On parlait pas plutôt de jeu vertical.
Mais non, parce que tu nous écoutais pas. Tu faisais un monologue.
Non, tu disais il se projette vers l'avant à ton époque.
Moi, je parlais très bien.
Non, mais d'accord. Mais
Non, mais blague à part, je te chambre pas. Ça arrivait. On se projette vite.
Déjà, la verticalité, à un moment, on l'a beaucoup dit, puis maintenant, on dit plus la verticalité.
Bah, celle-là, non. Par contre, moi, c'était pas trop ma génération. Mmh.
J'ajoute juste un truc à la liste, Daniel. Ça a été lancé par Bielsa. Mmh. Et c'est maintenant dans le langage courant. Mmh. C'est qu'on ne dit plus un club, on dit une institution. Mmh. Et ça.
Par Bielsa.
Ah, si. Ah, ça,
nous, dans l'after, on n'a pas attendu Bielsa pour parler d'institution, voyons.
Bah, ouais, mais moi, je sais pas pourquoi d'accord. J'ai toujours été gêné avec ce terme.
Institution.
Tu vois, pour moi, une institution, je sais pas, c'est le Louvre, le Collège de France. Tu vois, mais je sais pas, j'ai du mal à me dire qu'un club de foot est une institution. J'ai du mal.
Alors, tu sais pourquoi ? Parce qu'en fait, on l'utilise pour parler de club.
Tu vieillis.
Alors que institution, ça devrait être réservé à 4 ou 5 clubs qui le sont réellement. En Italie, la Juve est une institution.
Ça s'accepte comme ça.
Vraiment. Vraiment, c'est une institution. Il y a énormément de gens qui se réclament d'appartenance à ce club. Bah, le Real, le Barça, sont des institutions.
Moi, je te rejoins.
Après, qu'on le dise de Paris.
Autre expression lancée par Laurent Blanc.
C'est pas réel, quoi.
Expression lancée par Laurent Blanc aussi, totalement insupportable. C'est Yacine qui me la signale. Le fameux terme de sentinelle.
Ah, bien sûr. Ah, alors ça date de 2008-2009. C'est Laurent Blanc.
Laurent Blanc,
exactement.
C'est vrai.
Sentinelle. Alors que c'est vrai que celle-là, pour de bon, jamais on l'a sortait.
Voilà, sentinelle.
Ouais. Et maintenant, il manque une sentinelle. C'est vrai qu'à chaque fois, il manque.
J'en ajoute une dernière, après on passe à Lyon. C'est les joueurs qui, vont plus dans un club, pour jouer ou pour se faire plaisir, machin. Ils vont dans un club pour croire au projet.
Le projet, bien sûr.
Ouais.
Le projet,
c'est insupportable.
Même toi, quand tu vas à Blackburn, tu vas parler de projet.
Bah non, toi tu parlais de visiter les installations.
T'as juste visité les installations.
C'est pas pareil. Je vous l'ai dit ce que ça voulait dire.
Le
projet sportif, ça masque que t'y es que pour l'oseille. Voilà.
Oui, bien sûr.
Bah oui, quand tu dis je suis là pour le projet sportif, c'est que t'as pris un gros chèque.
Clément est là. Il est pas là pour le projet sportif, Clément. Il est là par passion pour l'Olympique Lyonnais. Salut Clément.
Salut les gars, Gilbert, Daniel, Jérôme.
Salut Clément.
Et je crois que tu veux parler de Dembélé, l'homme en forme du moment.
Mais alors ouais, j'avais parlé de Dembélé tout à l'heure à Adrien, et c'est vrai que j'avais appelé il y a 2 semaines, après je sais plus quel match d'ailleurs, et j'avais signalé le fait qu'il manquait pour moi un 9 et que la perte de Mariano avait été importante, avait des conséquences, parce que moi cette histoire des faux 9, ça va un temps, mais à condition d'avoir les joueurs pour, avec une intelligence de jeu pour ça, et de voir Depay et Cornet ou Traoré devant en 9, il manquait quand même un pivot, et je pense que c'est important, c'est utile. Et Dembélé, bon, ça va être génial parce qu'il rate quand même beaucoup de choses. Il apporte autre chose. Il apporte devant un point de fixation, un appui, des remises. Et je pense que ça donne vraiment en plus de la profondeur au jeu par ces appels que Depay ou Traoré ou Cornet ne font pas forcément. Donc pour moi, il est vraiment utile et je pense qu'il y a une marge de progression encore importante.
Bah moi, je suis assez d'accord. En plus, clairement, il est dans un bon run en ce moment.
Il a confiance.
Un bon run, ça c'est nouveau aussi ça.
Non, c'est une expression poker.
Désolé, refusé.
Non, c'est pas refusé. D'ailleurs, je vais en mettre de plus en plus.
Ah non, refusez.
Un bon run, excuse-moi.
Et ça veut rien dire un bon run.
Eh si.
Non, mais les mecs ils sont en train de craquer quoi.
Entre toi, ton institution et lui, c'est run.
Moi, je vais pas finir l'année. Hein. Ah ouais. Oh non. Oh, mais ça va pas. Les mecs sont malades.
Non.
Il est dans un bon run.
Ben oui, il vient de marquer là, but hyper important. Jean-François Guichard, il remarque ce soir. Je trouve que c'est un mec qui est peut-être en train de mériter plus de confiance de la part de son coach. Ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs que Genesio lui accorde de plus en plus.
Et moi, je trouve que
et je trouve qu'il mérite.
Je trouve que c'est logique et moi, je vous rejoins, mais ça va. Alors. Bien sûr qu'il mérite de jouer les gros matchs quand Lyon, parce que je trouve qu'avec lui tu peux jouer de différentes façons et surtout et comment
c'est Clément.
Clément, il vient de le dire. Moi, ça me dérange quand je vois Depay systématiquement mis aux côtés de Fekir devant. Comme ça.
Ouais.
Alors sur certains matchs, quand tu joues par exemple Manchester City, parce que c'est là, ça a commencé plus ou moins là, l'exploit à City. Bien sûr, on a mis en avant le choix de Genesio, c'était rassurant parce que il a fait un exploit incroyable là-bas en ramenant une victoire avec Depay dans ce rôle-là de faux numéro 9 aux côtés de Fekir. Ça a bien fonctionné. Ça peut être surprenant pour l'adversaire une fois, deux fois, mais à force d'installer ça, je pense que ça rassure pas les mecs et surtout j'ai l'impression que Depay bah il s'emmerde souvent à ce poste-là et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de d'inconstance de sa part et que la possibilité quand tu mets Dembélé avec Fekir en soutien derrière et un Depay qui retrouve son côté gauche où il faut lui faire comprendre que quand tu joues sur le côté, il va falloir faire un peu plus d'efforts dans le repli.
Et qui tu mets à droite?
Ah bah à droite tu peux garder
à droite la Cornet ou Traoré.
Tu peux mettre Cornet, Traoré.
Mais dans quel genre de match tu joues comme ça?
Ah ben moi je pense qu'à domicile
contre Barcelone ils joueront pas comme ça.
Non mais ce que je veux dire, je pense qu'à domicile
à Amiens samedi ils peuvent jouer comme ça. Ça c'est clair.
Laisse-moi finir. Quand tu joues une grosse équipe au Parc Ouel, je te parle pas à l'extérieur parce que t'as plein de choses et c'est normal que j'ai
en Ligue 1 en Ligue 1 ils devraient tout le temps.
Mais
en Ligue 1 ils devraient s'ils veulent contre le PSG blindé un peu plus semi. Mais en Ligue 1 ils devraient tout le temps.
Mais je pense que retrouver ce 4-4-2 et on peut le maquiller en 4-4-2 ou en 4-3-3 avec un Fekir qui vient aider le milieu.
4-2-4.
Voilà, ouais, milieu de terrain. Ben, je trouve que ça a de la gueule et que oui, en effet.
Ouais. Et vous trouvez pas que la présence de Dembélé rend Fekir meilleur? Il y a une bonne corrélation entre les deux.
Ah, mais oui, je pense que c'est une bonne idée. Ça lui donne un point d'appui.
Il a un point d'appui.
Il prend bien la profondeur. Ouais. Il est plus habitué à ce rôle de neuf que Memphis qui fait ça, pas par défaut, parce qu'on sait bien que même avec les Pays-Bas, ils jouent comme ça, mais je trouve que par nature, il est pas totalement vrai.
Non, mais Memphis, moi je trouve que c'est un joueur fabuleux quand il est,
quand il a envie de jouer, tu vois.
Ah, bah ouais, non, mais c'est vraiment un top joueur et le fait de libérer un petit peu comme ça de ce poids, de jouer tout seul devant, le fait de le remettre sur le côté avec beaucoup de liberté, déjà, il toucherait beaucoup plus de ballons. Il aura une complicité, une complémentarité avec Fekir qui serait très intéressante parce que Fekir pourrait prendre sa place à gauche et lui en soutien de l'attaquant et il aime ça, venir décrocher, avoir une solution devant parce qu'il est capable de donner des bons ballons de but aussi. Je trouve que c'est une des solutions à amener à l'Olympique Lyonnais et Genesio va réfléchir de la sorte parce que aujourd'hui Dembélé est dans une bonne phase, dans un bon run comme dirait Daniel et que avec cette confiance, ben tu peux laisser Dembélé parce que Dembélé il a pas besoin de 20 000 occasions pour marquer des buts. Et ça c'est bien.
Il y a eu un temps où il avait besoin de beaucoup d'occasions.
Oui, mais moins aujourd'hui. Moins aujourd'hui.
Et là il en fait confiance. Depuis le derby en plus là ça.
Et il faut s'en servir. Non et puis surtout attends pour finir, t'as la chance d'avoir deux latéraux. Alors que ça soit Dubois, Raphaël sur le côté droit ou de l'autre côté surtout le petit Mendy, ils ont des qualités de centre.
Donc justement quand au niveau des
Dubois surtout. Moi j'aime beaucoup ce genre. Non, je parlais à droite.
Ouais Clément pour conclure, vas-y.
Pour les latéraux, ouais je voulais demander pour les latéraux. On est d'accord que Dubois c'est quand même mille fois meilleur que Tété quand même. Ça apporte beaucoup plus devant.
Tété, quand est-ce qu'il a joué pour la dernière fois celui-là?
Il a joué un peu.
Contre Saint-Etienne,
mais c'est celui qui joue moins.
Tété est souvent loué pour sa qualité défensive. Lorsqu'on le met, c'est justement pour défendre, mais je trouve pas que défensivement. Offensivement, on sait qu'il apporte autant que Raphaël ou Dubois, mais défensivement, je trouve pas non plus super rassurant.
Ouais, le problème, c'est aussi le choix de Genesio au début de la saison. Raphaël, il devait partir, il est resté, donc il était numéro 1. Après, Dubois était numéro 1 bis, et lui, il se retrouvait
au placard. Et finalement, il est revenu par la force des choses.
Exactement.
Mais,
donc, c'est pas facile aussi psychologiquement. Je trouve pas que des circonstances atténuantes. Bien sûr que lui aussi doit se prendre en main et qu'il a montré certaines limites. Mais c'est pas facile pour lui quand même. Mais ça, c'est la gestion de Genesio.
Clément, merci beaucoup.
Et juste aussi, ouais, j'ai trouvé la gestion de ce match-là très bonne au niveau de la fatigue. Mm. Hier, je m'étais amusé à faire un peu l'équipe d'aujourd'hui, selon moi, ce qui était le mieux. Et j'avais mis exactement celle-là. J'avais juste un doute entre Depay ou Terrier.
Tu es Genesio compatible.
Elle est vraiment bonne parce que Denayer, Aouar, Fekir...
Tu pourrais être l'assistant de Pep.
Ouais. Ben ouais, donc pour l'instant c'est toi qui va l'être bientôt, Daniel. Je compte sur toi d'ailleurs pour lui insuffler quelques bonnes idées. Je pense.
Oui, d'ailleurs je précise à ce propos, Clément, parce que des fois on nous pose la question. C'est toujours en cours de construction, hein. Voilà.
De quoi, là?
La venue de Daniel. Alors, c'est tension, on a un peu des problèmes à joindre le club à Lyon, mais on va y arriver.
J'attends toujours.
La ligne est en dérangement en ce moment.
Oui, la ligne est en dérangement. Ça s'en occupe. Ils ont
décroché. J'y crois vraiment. Je pense vraiment que Daniel, tu peux apporter des choses, franchement, des idées. Et parce que des fois, de l'extérieur, ça peut être... De l'intérieur, on ne s'en rend pas toujours compte.
Lui en a attaché avec des idées. Hein, c'est...
Lui en dit pas trop quand même. Hein,
avec des idées, c'est bien. On fait beaucoup de choses dans la vie.
Ouais. Daniel, il est jeune.
Reviens quand
des
même
idées.
Après chez nous. Reviens quand même chez nous. On a besoin de toi encore.
Il peut rester une quinzaine de jours.
Salut Clément.
Salut les gars. Bonne soirée.
Allez, bonne soirée. Concluons sur la Coupe de France avec Amiens. Sébastien est avec nous, supporter d'Amiens. Salut Sébastien.
Salut Sébastien.
Bon.
Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir dire sur Amiens, mon vieux?
Pas mal de choses. En fait, j'ai croisé Genesio à son hôtel, et je me souviens qu'il avait le sourire, il n'était pas stressé. Et je suis pas surpris parce qu'on a un effectif tellement réduit que de toute façon, on peut pas jouer la coupe et le championnat. Je pense qu'on a de bonnes chances de se maintenir parce qu'on a quand même le retour.
C'est pas tant l'effectif qui est réduit, c'est la qualité des joueurs qui est réduite aussi.
Oui. Waouh. Non, mais exactement. Mais à côté de ça, on a
Il y a un paquet de mecs, ils n'ont pas forcément les pieds.
Ouais. Enfin, on a fait aussi de beaux matchs cette saison. Contre Monaco, on devait gagner parce que on avait
pas perdu.
N'était pas là, on n'est pas d'attaquant. Non, je suis d'accord, mais bon. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a en plus un super entraîneur. Là, on a fait jouer une équipe de CFA. Donc, Lyon était avec son équipe A, nous on était avec l'équipe C. Bon, le score me dérange pas parce que de toute façon, on peut pas se permettre de jouer la Coupe de France plus que le championnat. Je suis à peu près certain qu'on pourra se rappeler la dernière
connerie,
journée et qu'on se maintient.
Le maintien, moi je tremblerai un peu à ta place quand même. Hein.
Guano a enfin repris son rôle en défense. Aujourd'hui on l'avait pas, donc c'était une catastrophe la défense. Il y a le fort qui a fait des trucs vraiment.
Qu'est-ce qu'a mis un de plus que Dijon
Non mais c'est surtout que
Toulouse ou d'autres. Fin...
Non mais c'est surtout que bon Monaco en rechangeant d'entraîneur. Au bout d'un moment, il va peut-être y avoir un petit choc psychologique, tu vois, même si les joueurs sont complètement amorphes aujourd'hui, il faut les réveiller. Et que si Monaco commence à regagner des matchs, il y a un match important ce week-end, Dijon-Monaco, Amiens perd contre Lyon, je vois pas comment Amiens peut espérer, ne serait-ce que prendre un point contre Lyon. En toute logique, ils vont perdre. Non, mais. Et Amiens, il faut appeler. Après, oui, je suis d'accord avec toi. Ils sont pas dépassés.
Lyon nous réussit bien en principe.
Non, mais ils sont pas dépassés sur les.
Tu te souviens l'an dernier, si on n'avait pas raté le penalty, on gagnait 2-1.
Ouais. Mais bon, avec Dessy, hein, tu sais.
Ouais, je sais. Mais bon. Non, mais moi, je suis quand même assez optimiste parce qu'on a un super collectif. On a un coach.
Non, mais c'est vrai.
Top. On a le retour de Konaté. On a peut-être Kakuta qui va venir. C'est pas fait, mais je sais pas si vous avez des infos plus précises que les miennes, mais a priori. C'était quand même envisageable. Et sur le collectif de l'année dernière, on peut faire quelque chose.
Où je suis inquiet pour Amiens, mais comme pour Dijon, comme pour Caen, comme pour Monaco et Guingamp, c'est que t'as 5 équipes là qui commencent à être décrochées et que t'as 2 places de con et une place de barragiste. Et que il me semble que je te trouve un petit peu trop optimiste pour cette équipe d'Amiens. Parce que même si tu es supporter, franchement, et que par moment ils font des matchs cohérents. Tu parlais de la défaite contre Monaco, en effet, elle est peut-être dure. La défaite contre Marseille, s'il n'y a pas ce coup franc de Thauvin dans les dernières minutes, il n'y a pas de défaite, le match est nul. Mais
et
derrière,
on a un arbitrage scandaleux depuis le début de l'année. Hein.
Ouais, mais ça, tu ne seras pas aidé.
Le pénalty du PSG, il est dans l'imagination de l'arbitre.
Ouais.
La main, elle n'y est pas. enfin c'est aussi ça nous a pas aidé.
Ah mais c'est l'eau des petites, malheureusement c'est comme ça, c'est dur de dire ça, c'est l'eau des petites équipes. T'es jamais aidé par le corps arbitral, même s'ils le font pas exprès.
Voilà, bon, en tout cas là comme... tu récupères Konaté, que c'est un très bon attaquant Konaté, moi j'aime beaucoup.
Ouais, ouais, ouais. Konaté
qui a été longtemps
bon,
absent et qui l'an dernier a marqué beaucoup.
Mais dis-moi en tant que supporter d'Amiens, tu vas peut-être trouver la question complètement bête, hein, t'auras le droit de le dire, hein, mais c'est vraiment, tu le sentirais comme une cata si Amiens redescend en Ligue 2, tu vas vivre ça comment?
Alors ce serait une cata parce qu'avec l'augmentation des droits TV là, on pourrait avoir un effectif vachement meilleur l'année prochaine. Parce que je crois que les droits TV augmentent de 60%, si je ne raconte pas.
Oui, et puis là, c'est la deuxième année d'Amiens en Ligue 1. Et c'est après la deuxième année que tu touches le, plus.
Ça, sachant l'habitude du club, l'histoire du club et tout, où tu te dis maintenant, on a goûté à la Ligue 1, on veut y rester pour toujours, quoi.
Ah, bah oui, on a envie d'y rester pour toujours. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, on a un président qui gère bien. Financièrement, le club est sain. On a vraiment un coach qui est top, Pélissier. Moi, je suis certain que si on se rappelle à la dernière journée, ce que je vous dis sera confirmé, parce que on est en train de monter en puissance comme l'an dernier. Et je pense que Dijon, Guingamp seront derrière nous, Toulouse ou Caen seront derrière nous, et on sera capable de se maintenir.
Bah, Toulouse, tu pars de loin. Hein. Toulouse, ils sont 7 points d'avance hein, sur toi.
Hein. Sébastien, ouais, bah, écoute, on verra ça. J'espère que tu auras raison.
Là, on a fait le quota Amiens pour l'année. Hein,
salut Sébastien. Ah non, on peut reparler d'Amiens, ouais, t'inquiète.
On te rappellera la dernière journée.
Salut Sébastien, à bientôt.
Bonne soirée, au revoir.
Parce que ça sera pas avant la dernière journée, parce que c'est impossible qu'il se
passe. Dans tes 3 points, tu voulais parler de Bastia, ce sera le petit poussé des 8e, Bastia, puisqu'ils sont en National 3.
Et donc c'est quoi cette filière des gardiens Amiens de chez toi là?
Gürtner et Dreyer. Alors
pourquoi ils sont pas chez toi là avec ces gardiens?
Parce que nous on a Cels qui est meilleur. Mais non mais Gürtner c'est un bon gardien.
Bah, c'est pour ça, il est tellement, il a
un nom qui résonne.
Il résonne tellement Alsace que Dieu se dit.
Non, mais il a été formé à Strasbourg d'ailleurs.
Bah, je sais.
Mais Dreyer, non. Dreyer.
Il est pas alsacien. Il a le nom aussi.
Dreyer vaut mieux pas l'avoir.
Il est lorrain, Dreyer, je vais te...
Oula, ouais, effectivement, c'est pas du tout la même chose. Pardon, là. Oula, là.
C'est pas grave, Daniel, tu sais,
on est ouvert.
On a un destin lié.
Bon,
non, je voulais que tu dises un mot de Bastia quand même, parce que bon, en National 3, stade plein. Je veux dire, il y a une renaissance du club autour de nouveaux.
Stade plein, tu t'enflammes un peu.
De nouveaux dirigeants, tout ça.
Il y a du monde. Il y a plus de 6000 personnes. C'est remarquable pour un. Mais ça m'étonne pas vu la ferveur qu'il y a là-bas. Le Sporting est un club historique. Est en train de vivre des moments très difficiles et c'est sûr que. Pour les gens, pour les Corses, pour les amoureux du Sporting, revoir, ne serait-ce, ils ne gagneront pas la Coupe de France, mais s'offrir un 8e de finale de Coupe de France, c'est inespéré au départ, à domicile contre une équipe de Ligue 1, ça va être une belle fête au mois de février là pour les Corses, en espérant qu'ils soient à la hauteur de l'événement, parce qu'il y a quand même beaucoup de divisions d'écart. Mais voilà, moi ça me fait plaisir. Et puis il y a toujours cette âme qui existe là, et c'est pour ça qu'aujourd'hui ils vont remonter certainement. Je veux pas leur porter la guigne, mais ils vont remonter.
Ils sont premiers de leur poule de National 3 normalement.
National 2, ils vont y être. Après le plus dur, le plus dur commence dans tous les cas. Mais c'est bien de les revoir comme ça et de reparler positivement du Sporting.
Alors juste Mathieu Dreyer, c'est qu'il a fait toutes les équipes de France de jeunes. Il est formé à Sochaux, Dreyer.
On est quand même.
Mais non, c'est Dreyer, un Alsacien. Il a joué à Erdolsheim. Dans la vallée de la Bruche.
Ah bah tu vois qu'on y est quand même.
À 3 aussi. Ouais, il a joué à 3 à Caen.
Et d'accord, c'est un Alsacien.
Et il a fait toutes les équipes de jeunes jusqu'aux espoirs. Bon.
Voilà.
Et après c'est un désespoir.
Bah après les gardiens bon, il y a pas beaucoup de place. Il y en a moins que pour les joueurs de champ, t'as remarqué?
On avait remarqué.
Bon. Tout le tirage est sur rmcsport.fr hein, si vous voulez savoir contre qui va jouer votre club, bien sûr.
Je voulais, avant qu'on passe à autre chose, juste un mot, parce que je l'ai dit, c'était mon deuxième point sur globalement
le niveau général.
C'est 16e de finale. Cette Coupe de France, quand même, elle est pas gâtée. Bon, alors c'est vrai que ça n'est que les 16e et que petit à petit, l'intérêt va certainement monter. Mais c'est quasiment invisible à la télé. À des horaires.
Pourtant, les droits sont partagés hein, entre France Télévisions et Eurosport.
France Télé, ils ont dommage. Là, ce soir, le Amiens-Lyon, il faut aller sur Eurosport 2. Tu l'as pas tout le temps et partout selon les box. En gros, ils t'ont passé le PSG hier et il y avait eu un autre match, je crois, sur France Télé dans ces 16e. Pour le reste, c'est compliqué. J'ai pas vu de match vraiment très bon où les équipes semblaient vraiment concernées. Le 6-3 de Dijon, il est spectaculaire, j'ai regardé. Mais Saint-Etienne, ce qu'a fait Saint-Etienne dans ce match, c'est incompréhensible, terrible, genre on s'en fout, on se remet un peu à jouer. À l'arrivée, ça donne un match rocambolesque.
C'était la fête foraine. Edouard G, c'était pas arrivé depuis 1952.
C'était la fête foraine ce match.
Pour répondre, pour trouver un petit peu d'excuses à ça sur la qualité des matchs.
Peut-être
sur
que pour l'instant, scénario. En hiver, on passe les tours.
Non, mais c'est surtout ces tours en milieu de semaine.
Ouais,
la Coupe de France.
Est-ce que si ça jouait le week-end, la qualité des matchs aurait été différente?
Je pense que
peut-être
oui, parce
qu'il y aurait plus de monde dans certains stades, dans les matchs de l'après-midi, c'est
parce
possible.
Que tu t'attaches plus à...
Tu colles des matchs à 18h en semaine.
Eh ben non, mais c'est normal
qu'il y ait personne dans des stades.
Mais même pour les équipes amateurs, c'est horrible.
Bah ouais.
C'est leur fête, arriver en 16e de finale.
Jérôme, excuse-moi, mais les équipes amateurs qui arrivent là, c'est pas les amateurs. C'est des pros déguisés, ils font que du foot les mecs.
Non.
Enfin d'accord.
Arrête, mais tu joues sur les mots.
C'est pas des professionnels, c'est pas des vedettes les gars.
C'est pas des vedettes, mais ils vivent du foot.
On parlait du Sporting Club de Bastia.
C'est pas le boulanger qui va se lever à 4 du mat et aller à l'entraînement après.
Mais on s'en fout.
Moi je te parle de la ferveur. Toi t'es le premier à me dire.
C'est pas des gars qui gagnent des fortunes. Ils ont des salaires de
français moyens.
Quand tu joues à Vitré,
c'est sûr. Voilà. Mais jouer le mercredi ou le samedi, c'est pas rapport.
Non mais
ils peuvent jouer le mercredi.
Je suis d'accord avec lui. C'est le match de Coupe de France du week-end. Parce que c'est un côté festif. Si le match, ils peuvent le mettre à 14h à 18h, tous les gens de la ville vont y aller. Les mecs vont être la vedette pour une journée.
Les
commerçants,
les trucs.
Voilà, normalement, tu pars le match à 18h. Tu peux même pas le voir à la télé.
Franchement, ça,
tout le monde s'en fout.
Il faudra un jour, je vais appeler Noël Le Graët et je vais régler ça. Alors, j'ai des choses à régler avec Didier Deschamps sur la liste d'équipe de France. Je te l'ai dit tout à l'heure.
Ouais, c'est vrai.
Mais là.
Il y a une liste des bleus, là?
Non, mais on parlait de Giroud, c'est pour ça. Donc
en mars, il y en aurait.
Mais là, c'est vrai que ça tue un peu ce parfum de la coupe, quoi. En semaine, comme ça, je suis désolé. En plus, à cette période-là, où ils te mettent les matchs rapprochés là au mois de janvier, février, où c'est la pire période pour jouer au football.
Ça va changer la semaine prochaine.
Et c'est là que t'as
l'année
plus
prochaine,
de matchs.
Les gars. L'année prochaine, il y aura plus de Coupe de France le week-end.
Ah bah voilà. C'était la tradition.
Le Graët a anticipé ta demande.
Ouais, mais qu'il y en ait. C'est pas plus. C'est qu'il y ait plus du tout de matchs en semaine.
Je vais te dire.
De Coupe de France.
À la limite, si à partir genre des quarts, grosso modo, il devrait rester que des gros clubs, que là tu te remettes à les faire jouer le mercredi, comme il y a par exemple le Chelsea-Tottenham en Angleterre, Lille, c'est quoi la fiche, t'as Rennes-Lille, tu le mets mercredi soir à 20h, non mais...
À partir des quarts. En toute logique,
là, le Rennes, si tu le mets à mercredi à 20h30, mais aucun problème, là. Là, ça fait affiche du soir, c'est bien et tout. Mais tous ces matchs avec toutes ces petites équipes, qui ont été étalées sur 3 jours, là, comme ça, moi, c'est pas une bonne formule, ça me plaît pas. Je trouve que ça tue un peu du charme de la Coupe de France.
Il y a les retransmissions aussi, comme tu disais. qui tue un peu le...
Après, les droits ont été partagés. Ces diffuseurs-là qui ont pris, on peut rien dire là-dessus. C'est juste qu'aujourd'hui,
les retransmissions, quand tu joues dans des stades, sans tribune, c'est sûr que c'est compliqué.
C'est galère à avoir aujourd'hui.
Bien, comme le petit match, le dimanche après-midi, la TF1, là. Non? Ça vous plaisait pas, ça, à l'époque? Moi, j'adorais ça.
C'est-à-dire?
La Coupe de France, là.
Ah, bah si, bien sûr, j'aimais bien.
Sur TF1, là, le dimanche après-midi. Avec Jean-Michel Larquet.
Ou même un multiplex sur France 3, même avec chaque match sur France 3 région, tu vois, s'ils veulent faire. Ok, très bien.
Non, j'irai pas jusqu'à France 3, mais...
Non, mais toi, tu parles des commentaires, on s'en fout, c'est l'important, c'est que les gens puissent le voir. Les gens puissent le voir.
Allez, dans quelques instants, on aborde l'autre dossier du jour, l'élection de Thierry Henry. Henry n'est plus entraîneur de Monaco ce soir, toutes les infos à suivre dans l'after, bien sûr, et puis débat, suite à cette élection, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est le bon choix, et puis la suite, évidemment, on en parle avec vous, supporter de Monaco 32-16 et puis les autres, hein. Tout le monde a un avis. N'hésitez pas à nous appeler dans l'after. Quant au tirage de les 8e de Coupe de France, vous le retrouvez sur rmcsport.fr évidemment en intégralité si vous désirez le consulter à nouveau. À tout de suite.
RMC Football Show, l'after foot, Gilbert Bribois.
Nous sommes là avec Daniel Riolo, avec Jérôme Roten, et nous allons aborder maintenant le gros dossier du jour, à savoir Thierry Henry. On l'a appris vers 19h30. Alors c'est une journée un peu étrange à Monaco parce que Thierry Henry a fait une conférence de presse d'avant-match cet après-midi.
C'est ça qui est dingue.
Derrière, entraînement, tout se passe tranquillement. Bon, et puis 19h30, pam, ça tombe. Communiqué laconique, Thierry Henry n'est plus l'entraîneur. Il est donc remplacé provisoirement par Franck Passy. son adjoint qui fera donc l'entraînement demain.
Une situation intermédiaire.
Voilà, et donc on apprend des infos arrivent du Portugal en début de soirée où une chaîne portugaise dit voilà, Jardim revient à Monaco, c'est fait. Nous on n'a pas ces infos là, mais quand même un faisceau de présomption qui va dans ce sens. Pour l'instant, il y a rien d'officiel donc
Jardim serait back in business.
Voilà.
On dit au poker.
Donc, c'est pas une première dans le foot français parce qu'on s'est amusé à chercher. Est-ce que vous avez deux exemples qui vous reviennent? Je les ai donnés un peu plus tôt mais
à Marseille, il y a eu
à Marseille, exact.
Et ben,
à Marseille, à Paris.
Il doit y avoir à Paris, oui, en 88.
Ouais, exactement. Ça,
quand,
Houllier quand remplacé
c'est
par Montbert.
L'autre illuminé, là, qui a laissé sur le banc, là, Montbert.
Et après
Houllier revient pour la fin.
Et Montbert reste comme adjoint d'Houllier.
Et c'est ça.
Et à Marseille, l'exemple, c'est Ivic, avec Tapie en 2001.
À Paris, on a eu la chance d'avoir Montbert, ils l'ont pas gardé en numéro 1.
Non mais il trouvait bien de mettre sa fesse sur le banc.
Ouais. Ah, le mec a tout compris.
10 ans plus tard, on a eu un entraîneur qui a foutu 5 mômes de 17 ans sur le terrain, mettant les expérimentés sur le banc.
Exactement.
Donc t'as vu ça de près, non?
J'ai pas vu le banc, j'étais suspendu.
Oui,
mais de toute façon, je pense que ce jour-là, si j'avais été pas suspendu, j'aurais été sur le banc aussi.
Non mais c'est pour ça que je parlais de Patakès.
Et non, juste Marseille, c'est Ivic en 2001.
Oui.
Fin juillet, Tapie vire Ivic et il le reprend fin août. Un mois. Josip Skoblar et Ivic revient. Bref, voilà. Donc ça a déjà existé.
Oui, je parlais de Patakès parce que quand il fait la conf, franchement, t'écoutes la conf, même si tu sais que c'est tendu, machin, pas une seconde, le mec peut imaginer qu'il va se faire virer. Ouais. La façon dont il fait la conf. T'sais, même pas tu le sens un peu en danger, parce que souvent les entraîneurs qui sont en danger, dans la façon qu'ils ont de parler,
non,
tu sens que c'est un peu la fin. Là, ça veut dire que t'as tout fait dans le dos du mec, aussi bien d'avoir écouté les cadres qui t'ont dit c'est plus possible, le message passe pas. Henri est pas au courant de ça déjà. Henri pas au courant que visiblement on a déjà téléphoné à Jardim pour lui demander si ça l'intéressait de venir.
Peut-être que ça s'est décidé.
Alors,
il est pas avec sûr que Ribolovlev se soit réveillé à 18h et disant bah j'en ai marre, on change.
Alors si tu me permets,
je pense que ça se passe pas comme ça.
Que si les joueurs, certains joueurs cadres, Subosic, Glick, Radji, ces mecs-là sont allés voir les dirigeants pour dire il y a un problème, le message passe pas. Ce c'est pas les petits jeunes là
qui sont allés
le voir. Hein, on est bien d'accord. Ça passe pas et que les dirigeants disent ok, mais qu'est-ce qu'on fait? Qui on va aller prendre en cours de route comme ça? Il y a pas d'entraîneur, tu vois? C'est forcément qu'à un moment les mecs ont dû dire ouais, mais bon avec Jardim ça passait bien, il fait rien, rappelle-le. C'est que dans la discussion, ça a dû arriver, ce truc-là. Tu vois? Et tout ça se fait donc dans le dos de Thierry Henry, qui pour sa première expérience, là, au niveau couteau dans le dos, il en a pris une tripotée, là, d'un coup, là. C'est tombé dans tous les sens, c'est une poupée vaudou. D'où mon expression de Patakès.
Même, voilà, il y a un truc qui me dérange.
Énorme bordel, quand même, à Monaco.
Il y a un truc qui, moi, me dérange depuis le début de la soirée, c'est les multiples messages qu'on reçoit sur le thème « Ouais, de toute façon, on savait que ça ferait pas un bon entraîneur. Bah, » on sait rien,
ça,
pardon.
Non, ça, c'est une connerie.
C'est pas parce que là, ça a foiré qu'Henri ne fera pas un bon entraîneur. Et moi, je reste convaincu que Henri fera un bon entraîneur.
Oui, sauf que le rebond va être compliqué.
Exactement.
Le rebond va être compliqué.
Jurisprudence, Makelé. Parce que Makelé, il est arrivé quand même avec une aura de joueur certaine à Bastia, ça a foiré, va rebondir derrière.
Oui. Compliqué parce que est-ce que il peut accepter un club de Ligue 1 et est-ce qu'un club de Ligue 1 va se tourner vers lui?
Non,
pas sûr.
Ah,
j'y crois pas.
Ah mais non, mais c'est même.
Je pense qu'il doit clairement apprendre le métier. Apprendre le métier, ça veut dire bosser avec un adjoint, un préparateur physique, enfin constituer une équipe. Et puis tout simplement faire ce qu'avait fait Zidane pendant combien il a appris avec Ancelotti un an, il a passé tous ses diplômes, il a suivi un tas de conférences.
Henri a entraîné les jeunes à Arsenal, il est adjoint de la Belgique, il a fait des trucs avant.
Adjoint de la Belgique, il est numéro 3,
pas autant,
c'est pas exactement
Zidane,
la même chose.
Moi je pense
pas la même chose
Non
mais la solution est simple, il appelle Pinizza Avi, je veux dire c'est que en 2-2.
Non mais t'es pas obligé d'avoir
à mon avis ce sera un petit club en première ligue s'il doit partir.
D'avoir plus ou moins le même cursus pour arriver un jour
aujourd'hui. C'est plus comme à une époque où ton passé de joueur t'allais sur le banc.
Non mais
aujourd'hui la plupart ils bossent les mecs. Hein.
Non mais bien sûr, de toute façon c'est pour ça que tu passes des diplômes, c'est pour ça que après tu t'investis, et puis c'est rare d'arriver comme ça, tu finis ta carrière de joueur et d'un seul coup on te file sans avoir tes diplômes, on te met sur le devant de la scène. Non, tu passes des diplômes, mais une fois que t'as validé ces diplômes là, c'est que t'as quand même tu sais gérer un groupe, tu sais. Après, il faut mettre la main dans le cambouis. Et que Thierry, à mon avis, il se sentait prêt à faire ça, il aurait pu le réaliser. Le problème, c'est que quand tu te retrouves face à un groupe de joueurs qui est dans le doute, à faire passer les bons messages, à les amener à aussi à progresser, à ce que tactiquement, ce que tu leur racontes, eh ben ça porte ses fruits sur le week-end. Le problème, c'est que ça n'a jamais porté ses fruits. Il n'y a jamais eu ce fameux choc psychologique. Donc tout Thierry Henry qu'il est, moi j'étais le premier à le dire, et je l'ai vécu en tant que joueur aussi. Quand t'arrives, t'as un entraîneur qui est réputé, qui a gagné des titres, qui a ceci, cela, il arrive devant toi, tu te dis, waouh, respect, hein. Mais si au bout de 4-5 matchs, il n'y a rien qui ressort et que tu perds et que au contraire, tu commences à douter et l'ensemble de l'équipe redoute comme elle doutait sous Jardim, et ben là, tu regardes plus ton entraîneur comme le grand Thierry Henry, la star en France. Tu regardes, tu te dis, bah c'est un jeune entraîneur, mais je pense que bah il va pas dans le bon chemin pour nous amener là où on veut, et que aujourd'hui
est-ce que son erreur originelle n'a pas été de venir avec une équipe performante avec lui,
mais c'est ce que je disais,
pour
lui, le connaissant très bien, sa personnalité, vous savez comment il est, mais moi je le connais encore mieux, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, qui est un vrai passionné de football, un vrai amoureux du football, mais il est tellement sûr de lui que, à mon avis, avec toutes les louanges qu'on a pu faire quand il est arrivé entraîneur à Monaco, il s'est senti très très fort. Et il s'est dit, rien que ma présence dans le vestiaire,
ça va
amener des choses. Sauf que non. Et là, il a pris une première grosse claque. Et je peux te dire que, quand Daniel dit, est-ce qu'il rebondira en Ligue 1? Mais vu la fierté qu'il a, Thierry, vu comment il s'est fait virer aujourd'hui,
je pense qu'il va redémarrer tout en bas.
La Ligue 1, c'est fini.
Club de première ligue.
Mais c'est fini.
Un petit club de première ligue, il y a que ça qu'il peut faire.
Je pense première ligue, même il est capable d'aller en championship. Il est capable de se relancer comme ça.
Mais ce sera exactement Steven Gerrard est bien en train de.
Mais ce qui est sûr, c'est que la Ligue 1, tu la laisses de côté. Et pourquoi?
Parce que sa culture football, c'est là-bas.
Il y a un frein.
Il faut bien avouer que c'est là-bas.
L'aspect financier. L'aspect financier, il y a aucun club de Ligue 1 qui peut lui donner ce que, même s'il est prêt à faire des efforts et qu'il en a fait à Monaco.
Non, pas que ça, il y a le côté culturel.
Moi je pense que là
il est footballistiquement, il est anglais tout simplement.
Mais moi je te dis Thierry, même si c'est un échec, c'est un fiasco
espagnol.
Pour moi, c'est un fiasco ce qui s'est passé parce que regarde son bilan, c'est un fiasco. Et ben tout Thierry qu'il est avec sa fierté, je peux te dire qu'aujourd'hui bien sûr qu'il l'a fait de son autocritique. Mais là, le virer comme ça, alors que tu laisses faire la conférence de presse, tu laisses manager le truc, il a rien vu venir. Et à mon avis, c'est pas les joueurs, Daniel, qui ont dit, tiens, il y a Jardim qui est pas loin. Jardim, il vivait à Monaco. Donc, dans la réflexion de l'ensemble des dirigeants, ils se sont dit,
et comment faut lire l'interview?
Il s'est reposé, le petit Jardim. Il était bien, en fait.
Ouais, il a pris 3 mois, il s'est barré en vacances et tout.
Il a surtout pris 7 millions en banc.
Ouais, et comment on prend l'interview d'il y a 3 jours de Jardim qui dit, je vais entraîner un club français? Bah, Monaco.
Ouais, non, je pense pas. Enfin, moi, j'ai du mal à envisager que...
Non,
il y a du machiavélisme.
Après, pour finir sur le dossier Thierry Henry,
si Henry gagne contre Metz le jour même là,
j'espère juste qu'il va rebondir vite, parce que quand tu restes avec un tel fiasco dans la tête, si tu laisses passer des mois, trop de mois comme ça,
franchement ça va pas être tout de suite.
Mais tu peux tomber dans les oubliettes, tout Thierry Henry qu'il est, et surtout avec cette trace qui est quand même compliquée. Tu peux rebondir, tu peux avoir des échecs, mais moi on m'a toujours dit, quand tu te commandes ton rôle d'entraîneur, Pour être un grand entraîneur, le premier rôle qu'on te donne, il faut pas se rater. Parce que c'est souvent celui-là que tu payes tout au long de ta carrière. Et on te le rappellera tout le temps. Le problème, c'est que là, il s'est complètement raté.
Mathieu est là au 32-16. Salut Mathieu.
Salut les amis.
Salut Mathieu.
Qu'est-ce que tu penses de la situation, toi? On parle d'Henri là, pas de Jardim, mais est-ce que tu estimes que c'est normal que les dirigeants aient décidé de le virer?
Bah écoutez, moi, je vais peut-être me faire insulter, j'en sais rien, mais pour moi c'est complètement normal. Il est là depuis 4 mois, il n'y a pas de son de jeu, il n'y a pas d'idée nouvelle. Jouer à 5 derrière quand t'as 2 latéraux qui savent pas jouer au ballon, pour moi c'est une énorme connerie. Je pense que Thierry Henry, en fait, il s'est laissé dépasser par les événements, il a voulu blinder derrière pour pas prendre de but, mais quand même faire le jeu. Et quand tu essayes de faire le jeu et que tu te prends contre sur contre et que tu te prends des buts alors que tes défenseurs centraux sont pas là, parce que ils savent pas comment jouer derrière, parce que c'est toujours la défense le problème à Monaco. On parle de l'attaque, c'est vrai, on marque pas beaucoup de buts, mais en défense, c'est une catastrophe. Quand tu vois qu'au bout de 3 à 4, 5 matchs, tu joues derrière à 5 et tu vois que ça fonctionne pas, mais pourquoi juste ne pas changer de système au moins un match? même contre Metz, par exemple, en Coupe de France, c'était un essai à faire. Il l'a pas fait. Voilà, il a dit qu'il assumait ses responsabilités. Je suis content de l'entendre. Moi, personnellement, Thierry Henry, merci, au revoir. Je le respecte pour tout ce qu'il a fait dans sa carrière, pour le club et tout ça. Prendre les journalistes aussi de haut comme il le fait en conférence de presse, parce que je les suis toutes, ces conférences de presse, je trouve que c'est pas juste. Le métier de journalisme aujourd'hui, c'est pas non plus un métier facile. Et quand je vois que
ouais,
que
c'est lui, surtout le métier le plus détesté de France, hein, désormais.
Voilà, mais
faut bien se dire les choses.
Hein. Dans laquelle il devrait être un peu plus humble justement envers les journalistes, essayer un petit peu de calmer les choses. Non, lui, il prend toujours de haut, et au bout d'un moment, ça passe plus. Le discours dans le vestiaire passe pas. Le discours avec les journalistes ne passe pas non plus, parce que forcément, on lui pose toujours les mauvaises questions, mais c'est normal.
Non mais c'est vrai, moi je te rejoins là-dessus parce que j'en ai entendu beaucoup de Thierry parce que je le trouvais très bon dans son rôle de communication quand il était joueur, quand il avait envie de parler et surtout après dans son rôle de consultant et que je me suis dit bon écoute, je pense qu'il va vouloir parler football, il va sortir des choses intéressantes pour les journalistes parce que ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Alors je dis ça c'est pas parce qu'aujourd'hui je bosse avec les médias, mais parce que c'est ce que j'ai toujours pensé tout au long de ma carrière et que c'est vrai. En effet, dès que les journalistes se posaient des questions d'un point de vue tactique, la 5 derrière et pourquoi 5 derrière et pourquoi vous repassez pas à 4 tout de suite, ils se braquaient, ils disaient. En
oui,
gros,
oui.
Mais pourquoi vous me parlez de tactique? Vous connaissez quoi, vous, à la tactique? Et ça, c'est
fou,
pas bien.
Ça
c'est pas bien. Et à l'arrivée, il s'est mis après une partie de la presse à dos. Et ça, c'est terrible parce que quand t'as déjà le club, après les supporters
en tout cas,
comme
presse,
toi.
La presse à Monaco, c'est pas non plus.
Au niveau pression, il connaîtra pire dans sa vie.
C'est pas Boca Junior, quoi. Tu vois, c'est.
Non. Ça, c'est sûr. Je pense qu'il en a rattrapé plus d'un, là.
Oui, non, là.
Ah, puis on a même pas eu le temps de lui envoyer Daniel Riolo, t'imagines.
Maintenant, pour parler de Jardim, si je peux en parler deux minutes.
Vas-y.
Allez, c'est la suite logique du débat. Vas-y.
Du débat. Je sais pas si c'est une fake news ou si c'est réel. Lui, en tout cas, avec tout ce qu'il a apporté à l'AS Monaco depuis qu'il est arrivé, je trouve qu'on l'a licencié beaucoup trop tôt. Ça arrive de faire des erreurs. Je pense qu'il avait plus d'idées quand on l'a licencié. Il a dû se remettre en question.
Mais est-ce que lui a pas été également un peu lassé ouais. Puis finalement, il s'est pas accroché, hein, tu vois.
C'est son vestiaire qui l'a lâché, je pense.
Ouais, alors là, tu vois, pour avoir eu beaucoup d'échos aussi de ce qui s'est passé sur le début de saison et tout ça, c'est vrai, et c'est pour ça qu'il faut pas oublier ce qu'on a dit et ce qui s'est passé avant, même s'il revient, et tant mieux pour l'AS Monaco, parce qu'il connaît parfaitement, et puis tout ce qu'il a apporté à ce club, s'il est prêt, psychologiquement, bien reposé, je pense que là, il va pouvoir remotiver ses troupes et sortir l'AS Monaco de la merde, parce qu'à l'arrivée, l'effectif, il ressemble quand même à quelque chose. Mais il faut aussi reconnaître que les premiers mois, il y a eu la campagne l'année dernière, Ligue des Champions, qui était une catastrophe. Sauvé ouais. Avec cette place en Ligue des Champions de nouveau, même si la fin de saison a été compliquée. Et là, ce début de saison catastrophique, en Ligue des Champions, en championnat, où ils trouvaient pas de solution, ils nous remettaient les vieux de la vieille, là, qui avancent plus du tout, hein, les Radji, les ceci, les cela, et pareil, hein, comme Thierry, pour solidifier son équipe, bam, on joue à 5 derrière, on remet les vieux et que ça marchait, et puis ça marchait pas. Il était à court d'idées, et je pense que lui aussi, il était fatigué de ce rôle-là, et qu'il avait besoin, dans un premier temps, de partir en vacances, de couper complètement, et peut-être que là, en effet, depuis qu'il a fait des déclarations, Daniel disait qu'il avait envie de nouveau d'entraîner, et pourquoi pas en France, comme par hasard. Et ben là, il est frais à mon avis pour repartir
peut-être
du bon pied.
Peut-être qu'il s'est aperçu aussi qu'il a pas eu autant de contacts qu'il l'espérait pour réaliser son ambition d'entraîner dans un autre pays de foot et dans un grand club, et qu'il s'est dit bon, je suis pas super à Monaco, c'est ma vrai. Famille est bien c'est ici, vrai. Je gagne très bien ma vie.
Il mange un peu son correspond. Chapeau quand même, parce que même dans l'interview récente là.
Oui, bien sûr. Il a envie de plus grand.
Oui, et puis
il a une vraie ambition.
Oui, mais par rapport aux dirigeants monégasques aussi, parce qu'il dit quand même, bon, moi, en gros, on n'était pas d'accord. Le mercato, j'étais pas content. Je veux dire, il y avait quand même une vraie dissension. Et donc le gars revient. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a l'un ou l'autre, enfin, soit les dirigeants, soit lui, qui va devoir quand même.
Mais de toute façon,
dans le discours, dans la posture, faire un effort.
La réponse, ils lui ont donné. Quand il dit, c'est vrai qu'il était pas content du recrutement, c'est vrai qu'il y a eu des erreurs, c'est vrai qu'ils ont pris à peu près le même style de joueur, c'est-à-dire des jeunes joueurs qui brillent sur des championnats mineurs.
Il revient en disant, bon les gars, vous avez vu que c'est pas comme ça qu'on fait, donc m'enlevez pas tous mes cadres, parce que sinon on va galérer à chaque fois. Et puis il a dit, bon ben je reviens, mais si on continue même pour l'année prochaine,
non, mais aujourd'hui,
bon,
aujourd'hui
on fait les choses comme il faut.
Daniel, lui...
Juste, si je peux me permettre sur Jardim.
Ouais,
vas-y. Moi je sais que l'entente entre Jardim et Vadim Vassiliev, elle est très très bonne. Ça, même quand il a été licencié, Vadim Vassiliev l'a remercié encore une, 50 000 fois. Voilà, là-dessus on va pas y revenir. Moi ce que je
il manquerait plus qu'elle soit pas bonne. Ils ont bien croqué grâce à lui quand même tout ça.
Par contre, ce que je sais de
il a valorisé les produits, hein.
Surtout Vadim.
Bien sûr. Ce que je sais de sources sûres, par contre, c'est que Jardim, à l'intérieur,
il a fait de la value sur les joueurs.
Il s'entend pas avec tout le monde. C'est-à-dire certains entraîneurs, des jeunes et tout ça. Je vais pas citer les noms. Ce que je sais, c'est que c'est quelqu'un quand même qui est très campé sur son football,
ouais, c'est vrai.
Qui a besoin de ses adjoints, qui a besoin d'être dans sa bulle pour pouvoir
entraîner. Mais il n'y a plus d'entraîneurs qui travaillent pas. Tous les entraîneurs travaillent avec une équipe, 3-4 personnes. C'est très important.
Non, mais c'est important ce que tu viens de dire aussi, parce que là encore, hein, tous les infos qu'on a, et certainement que j'ai les mêmes que toi, c'est vrai qu'en effet, il y avait ce problème relationnel au sein du club, et ça posait problème au bout d'un moment. Ça posait pas problème quand il y avait les résultats, parce que qu'est-ce que tu veux dire, un entraîneur qui t'emmène en Ligue des Champions tous les ans, qui t'emmène en demi-finale de Ligue des Champions, après qui fait un super parcours, qui te valorise les joueurs, que tu revends à un prix d'or, bien sûr que tu peux rien dire. Par contre, quand les résultats étaient pas là, c'est vrai que les tensions qu'on pouvait sentir au sein des équipes de jeunes, où le rapport il est pas très bon avec la formation, eh ben peut-être que ça embêtait aussi les dirigeants monégasques de ce côté-là, et qu'ils avaient fait un choix de Thierry Henry qui peut-être arriverait à réinstaller un certain discours. Aujourd'hui, moi je pars du principe que Jardim, peut-être qu'en se reposant tout ça, il a aussi fait son autocritique, et il s'est peut-être rendu compte que ouais, il y avait des bonnes choses au niveau pro, et qu'il y avait aussi des manques dans le club, et peut-être qu'il va essayer d'améliorer les choses. En tout cas, je le souhaite s'ils le prennent.
Merci Mathieu.
Je pense. Merci à vous. Juste une petite info. Je fête mes 15 ans de premier coup de téléphone chez RMC, en fait. Voilà.
Ce soir.
Je vais le dire. Ouais. Au mois de janvier.
C'est une sorte de bon anniversaire alors.
Je m'en rappelle plus exactement, mais vu que je sais pas si je passerai avant fin janvier, je voulais me souhaiter un joyeux anniversaire à moi.
Et ben on te le souhaite aussi, et puis on va t'envoyer un petit t-shirt, parce qu'il nous en reste. Je sais pas s'il nous reste du jackpot messieurs dames ou du caca de nul.
Au stock, hein, je sais pas.
Il reste de tout. On va t'en envoyer un. Mathieu, c'est cadeau. Salut Mathieu.
Merci beaucoup,
vos phrases. C'est pas une phrase culte de Daniel, c'est pas une phrase culte de moi, donc fais tes t-shirts, hein. Vends-les tes t-shirts.
Tu sais que ce mec là
non mais c'est la vérité. Moi ça m'a toujours autant, moi je suis nouveau, je suis une pièce rapportée.
Ouais, mais après il faut que tu sortes une phrase mythique qui reste dans l'histoire.
Si c'est moi la punchline, ça sera
le
un
caca,
autre,
c'est tu pas es nul, c'est la punchline de Fred Hermel, tu vois.
Mais il y a des hommes clés dans l'after. Depuis de nombreuses années. Pourquoi Daniel, il y a pas de phrase?
Parce que là, il fait des phrases longues, ça rentrait pas sur le t-shirt.
Exactement. C'est vrai, il fallait en mettre dans le dos aussi. Mais bon.
Et puis surtout, j'en fais trop.
Non, mais toi, ça te dérange pas, mais je le dis pour toi, parce que je sais que ça te travaille.
Il y a une phrase qu'on aurait pu sortir de Daniel pour un t-shirt, c'est le fameux, ça fait 10 ans que je vous le dis. Ça aurait pu passer.
C'est vrai, celle-là aurait pas été mal.
Pas mal. Pour la prochaine collection. Dans quelques instants, on est de retour avec le reste de l'actu du jour.
Je vais envoyer un t-shirt bientôt.
On va parler mercato, notamment Paredes, notamment.
Mais pas à toi, par contre.
Leandro, exactement. Gros frappeur. On en reparle dans quelques instants avec vous au 32-16. Bien sûr, l'after est encore la première client avec toute l'actu foot du jour et avec vous au 32-16. Évidemment, le tirage du 8e de coupe, c'est sur rmcsport.fr si vous voulez le voir.
RMC Football Show. L'after foot. Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, nous sommes là, Jérôme Rotten, Daniel Riolo, l'actu du jour, bien sûr. Mais Daniel, t'as reçu un message, tu veux nous relayer?
Franchement, Gilbert, excuse-moi,
l'actu du jour.
Mais tu parlais des joueurs qui jouent dans les clubs engagés en Coupe de France. Un ami de Lyon, Yacine, me dit, à La Duchère, il y a un défenseur, il est boulanger.
Donc voilà, tu me permettras complètement de la plaque.
Il est boulanger.
Il est en formation de boulangerie, il est boulanger à mi-temps.
Il est boulanger,
les mecs en national à La Duchère, ils sont pas boulangers.
Kofi, hein?
Ah bah, là, mais moi, j'adore. Mais... Il est boulanger tous les matins? Tous les matins, il est à 3h du mat dans la boulangerie?
Je pense rien, mais s'il a 3h ou s'il fait du pain complet ou des baguettes,
il est boulanger. Un jour par semaine,
il est boulanger. Mais il est boulanger, qu'est-ce que tu racontes?
Écoute,
un jour, tu vas mettre en doute le fait qu'il est boulanger.
Je veux des preuves.
Il veut savoir si...
Eh ben, moi, je vais te dire.
Comment ça, tu veux des preuves?
À Bastia, tu crois qu'ils sont tous, Santelli, je le connais bien, je connais bien son père. Et lui, il est berger.
Mais
il fait du fromage de chèvre,
tu manques de respect à ces joueurs qui sont pas professionnels.
Ouais. Et Gilles Scioni, avec qui j'ai joué, ben il a repris ses études parce que le pauvre, il peut pas. Voilà. Donc il va à la fac tous les jours. Et...
Donc après savoir s'il y va une heure à la boulangerie, s'il est vendeur, s'il est dans les meules.
Non, c'est pas dans les meules. Tu nous sors que tu es berger.
Il est berger, Santelli.
Oui, ben alors, il fait le brouche.
Et à mon avis, j'en ai oublié, il doit y en avoir quelques-uns des bergers là-bas.
Bon, dans l'actu du jour, le mercato. Alors, du coup, vous m'avez perturbé. Oui, le mercato. Donc, Leandro Paredes. Donc, il n'y a encore rien d'officiel. Mais donc, le joueur du Zénith, plusieurs sources, donc, a trouvé un accord avec le PSG. Alors, il est encore jeune, 24 ans.
Il
a déjà bourlingué.
Vassiliev et Jardim sont ensemble en ce moment.
Ah et oui, mais
voilà.
Très bien. Donc, ça va se...
Ensemble en ce moment, là, tu l'as dit?
Mais ils sont dans un resto à Monaco.
Bah, très bien. Mais comment il s'appelle le resto?
Je tairai le nom.
Donc, Leandro Paredes.
Le nom d'une abeille?
Oui, exactement.
T'as vu ça un peu?
Comment tu sais ça, toi? Attention, texto.
C'est normal, on reçoit les textos. On reçoit les textos.
Non, mais on l'a dit tout à l'heure pendant le match.
Je reviens à Leandro Paredes, pour ceux qui ne le connaissent pas, à qui vous le compareriez. Un grand gars physique, 24 ans, grosse frappe.
Physique, c'est d'abord un vrai joueur de ballon,
non,
déjà.
C'est aussi ça. C'est un type qui a une très bonne présence physique. Paredes.
La saison qu'il fait à la Roma, il est pas mal du tout. Là, la belle saison de la Roma quand ils font deux derrière la Juve, et c'est plus un relayeur. Il prendrait a priori là comme ça plus la place de Rabiot que d'un 6.
Un peu le physique de Thiago Motta, voilà. Je cherchais un peu qui
est avec lui, tu peux jouer à deux, Daniel.
Ouais, mais à la Roma, ils l'ont installé devant la défense.
Ouais.
Et c'est alors que de formation, il est plus comme ils disent en Argentine là, le 8. Plus Lucho González, dans le profil. Mais à la Roma, ils l'ont mis devant la défense et ça se passait bien. C'est un bon joueur de foot. Hein.
C'est un bon joueur de foot et puis ce qui est bien, c'est qu'il t'apporte cette grinta.
Si le PSG fait Alan en vrai 6 ou Gueye...
Dis fait venir, parce que fait, ça c'est aussi les expressions du foot là.
Exactement. Et Paredes, d'ici quelques mois, une fois que tout le monde est en place et que tout le monde est acclimaté, Verratti est un joueur de banc. Voilà, je vous le dis.
Très bien, c'est noté.
Bon, en tout cas, l'effectif, je sais pas s'il sera un joueur de banc, mais l'effectif sera bien étoffé.
Il deviendra un joueur de rotation.
Donc au final, c'est un Cernan, on a raison.
10 ans avant tout le monde.
Il est fort, il est très fort.
Et pour Verratti, peut-être que c'est un élément déclencheur qui va le permettre de se remettre encore plus en question et de progresser.
De se bouger un peu le train. Déjà que ces derniers temps, il sort beaucoup moins. Faut le dire aussi, moi qui disais tout le temps, il est tout le temps dehors, machin.
Et ces derniers temps, il s'est quand même bougé un petit peu les fesses quand même sur les derniers matchs de Ligue des Champions.
À la différence de l'arrière-gauche qui ne joue jamais, qui a été longtemps blessé, qui lui, au niveau du sérieux, c'est très très moyen.
Ça c'est sûr.
Et au niveau des sorties, dans des endroits où ça se termine mal à l'arrivée.
Après vos joueurs de sortie.
Voilà.
Mercato à Nîmes. Alors vous savez que c'est fin de saison pour l'attaquant Clément Depré. Genou, a priori c'est les ligaments du genou qui sont touchés. Et il avait marqué pourtant hier face à Angers. Et là, Nîmes négocie aujourd'hui avec Emmanuel Rivière, qui est à Metz. Souvenez de Rivière, qui a
Club. Les supporters messins, ils s'en souviennent aussi.
Voilà, ils pourraient aller à Nîmes. Également vous signaler que la Coupe d'Asie, Sakai ne rentrera pas tout de suite à Marseille, parce que le Japon s'est qualifié pour la demi-finale aujourd'hui en battant le Vietnam 1-0. Et Godos ne rentrera pas tout de suite à Amiens, puisque l'Iran s'est qualifié face à la Chine 3-0.
Ça va donner quoi les demi, là?
Donc t'auras Japon-Iran. Et
un
après,
bon match Vietnam.
Celui-là, j'ai pas regardé, je t'avoue.
C'était pas mal, ouais.
Demain, il y a Corée du Sud-Qatar, si équipe, ça t'intéresse. Et il y a Émirats-Australie.
Voilà. T'as regardé combien de matchs de cette...
Japon-Iran, après tout, ça paraît logique. Deux équipes qui étaient à la Coupe du Monde.
Tout à fait.
Il y aura la Corée du Sud, loin de là.
Voilà. Non, moi, je me suis concentré sur le Kyrgyzstan. Il y a de beaux joueurs. Et puis, pour conclure, encore de petites infos pour vous dire... que les ennuis de Ronaldinho, mauvais karma Ronaldo hein, ces temps-ci, hein, je vais dire Ronaldo entre l'histoire à Las Vegas et la fraude fiscale. Donc là, au Portugal, ça commence à monter. Il y a une loi qui pourrait faire que Cristiano Ronaldo perde toutes ses décorations. Puisque dès que t'es condamné au Portugal, tu peux perdre tes décorations. Et comme il a été décoré d'un peu tout au Portugal, sauf qu'à Madère, son île, là, on a dit non, nous on lui laisse toutes les décorations. De toute façon, c'est le Portugais le plus prestigieux au monde. Il est de chez nous, on lui laisse les décorations. Ouais. Voilà. Oui. Donc il fait débat chez lui, Cristiano. Et pourtant quel joueur. C'est fini pour ce soir. Demain l'after sera là après la Ligue 1, évidemment.
Un gros match, Lille-Marseille.
Lille-Marseille avec Balotelli dans le groupe.
Exactement.
Petite affront de dernière minute. Marseille et Lille, demain soir.
La semaine prochaine, hein, moi je serai pas là.
Et avis à la France, Jérôme Rotten part
Une semaine en vacances.
Ça va nous faire du bien à tous.
Et vous aurez
et à lui aussi.
Où est-ce que des petites nouvelles de moi sur Twitter.
Où est-ce que tu vas croquer?
Il a lancé un défi.
Oui, au soleil.
Ah, c'est bien.
J'ai lancé un défi.
Il a lancé un défi à matin il y a quelques jours, t'en souviens pas? Moi je pense que
un défi.
À l'entrecôte en or.
Ah, tu vas à Dubaï?
Ouais.
Il va manger l'entrecôte.
Je veux voir l'entrecôte.
Mais.
Comment il fait? Bien, je veux voir.
Voilà, vidéo à suivre de Jérôme Rotten. Attention aux réactions. Salut Jérôme, bonnes vacances. Demain soir, l'after sera là, bien sûr, dès la fin de Marseille-Lille. Bonne nuit à tous.
Verratti, pour 11 millions, encore une fois, c'est un joueur qui a beaucoup moins prouvé, je pense, que Belanda, donc on est un peu dans l'excès là. Verratti n'arrive sûrement pas comme titulaire. Je vous fais le pari qu'il sera rarement même dans les 18.
RMC Football Show, l'After Foot.